Bonjour, Nicole, donneuse de voix à la Bibliothèque Sonore depuis pas loin de 20 ans maintenant. Déjà 20 ans. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue dans notre CD pour les vœux de 2023 que nous avons baptisé Plume au pluriel. Pourquoi Plume? Eh bien, parce que cette année, nous avons eu envie de créer une synergie entre les trois sections de la bibliothèque sonore qui tournent autour des livres comme la plume sur le papier. Vous avez les donneurs de voix qui enregistrent les livres chez eux. Les donneurs de temps sont vraiment le centre par où passent les enregistrements des donneurs de voix et où les audiolecteurs les récupèrent, soit directement, mais c'est quand même assez rare à cause de la distance, ou simplement par l'envoi de leur liste que les donneurs de temps consultent pour leur faire l'expédition des livres à écouter. Quelquefois, des audiolecteurs ne savent pas trop comment orienter leur choix de lecture. Et nous avons pensé les mettre en contact les uns des autres en leur demandant de donner un petit résumé et commentaire d'un ou deux ou trois, selon leur disponibilité, de livres qu'ils recommanderaient aux autres audiolecteurs. Vous allez voir, le résultat est intéressant parce qu'ils vont entendre le prénom de l'audiolecteur qui, comme eux, a lu des livres, mais pas toujours les mêmes, et peut-être que cela leur donnera l'idée de demander directement au donneur de temps de mettre sur leur prochain envoi tel livre qui a été recommandé par tel audiolecteur. Et c'est ainsi que la plume va tourner. Alors, nous avons pris la décision de mettre tout le monde ensemble sur un CD. On aura donc des donneurs de temps, des donneurs de voix et des audiolecteurs qui tous ont participé d'une manière ou d'une autre à la conception de ce CD. Voilà, il y aura un petit peu de musique entre les fichiers pour vous laisser un petit temps de réflexion. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Je vais passer maintenant la parole à notre président, Elian Espagnol. Vous aurez ensuite les fichiers un petit peu mélangés, comme ça vous change. Vous n'avez pas que des audiolecteurs ou que des donneurs de voix. Et à la fin, nous aurons une description un petit peu plus profonde des activités de la bibliothèque au cours des dernières décennies. Et ça sera par Gisèle Vincent, qui, avec son mari Tristan, font partie des piliers de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, et que certains d'entre vous connaissent très bien. Nous profitons de ce CD pour leur souhaiter une excellente fin d'année 2022 et beaucoup de bonnes choses en 2023.
Joël, donneuse de voix, sans des encres, souvenir d'enfance. Quand elle avait quelques sous, elle se rendait à la papeterie du bout de la rue pour y acheter ses carrés de papier multicolore vendus en pochettes de 10. De retour à la maison, elle décelait le film qui les retenait, les disposait en éventail, tel un jeu de cartes, et déterminer l'ordre dans lequel elle allait les employer. Les couleurs claires d'abord, blanc, rose, bleu azur et jaune citron. Puis les plus foncés, rouge vif et vert émeraude. Mais elle ne se décida jamais à utiliser les noirs et les bleus sombres. Parfois, elle ne laissait pas le temps à l'encre de sécher, et recouvrait vivement les arabesques humides et luisantes qui venaient s'imprimer en miroir sur le carré altéré. Si le geste était trop prompt, son écriture s'écrasait sur le papier. Elle retrouvait sa chair blessée, éclaboussée, et les mots semblaient crier leur souffrance. Mais lorsque la pression était ferme et suffisamment lente pour absorber l'encre de manière uniforme, il ne restait plus des lettres qu'un squelette. Deux lignes fines, deux parallèles sinueuses correspondant à l'ouverture plus ou moins affirmée de la fente de la plume. Et c'était comme si l'écriture s'était vidée de son contenu. Quand il lui arrivait de faire un pâté, elle enfonçait un coin agressif dans le ménisque bombé. L'encre montait par capillarité et irisait lentement la feutrine qu'elle appliquait une fois encore sur la tache disgracieuse avant de la gommer. Les jours de grande peine, les larmes s'écrasaient avec un bruit sourd. Le tampon absorbait le liquide salé, gonflait et en séchant, gardait la cicatrice du chagrin sous la forme d'une bizarre incurvation plissée, auréolée d'une guirlande blanchâtre. Elle savait, pour en avoir étudié la texture, que la longévité de ces feuillets dépendait de leur bain. Ils vieillissaient diversement à l'usure de ses caresses. Elle aimait leur contact rugueux sous le gras de la paume, quand, plus mal à main, elle traçait les pleins et les déliés. Elle les conservait jusqu'à ce qu'ils tombassent dans l'embeau. Ils perdaient leur forme peu à peu, mollissaient, s'effilochaient, s'effritaient. Et ce n'est que lorsque leur cœur était si hachuré d'encre qu'il ne pouvait plus rien absorber qu'elle se résignait à s'en séparer. Avant de s'en défaire, elle jetait un dernier regard sur ces palimpsestes, indéchiffrables tant leurs strates se trouvaient enchevêtrées. Elle aimait ses buvards pour avoir recueilli ses essais et ses erreurs, ses joies et ses peines, ses secrets et ses mensonges. Sans doute, à force de s'en servir, les considérait-elle comme une double peau. Vincennes, Mont-Saxonnet, mars-avril 1997. Joël, donneuse de voix. Petite graine et le rocher. Conte. Au début de l'automne, lorsque les pins laissent tomber à terre leurs pommes éclatées, ils espèrent retrouver leurs petits au printemps. Mais une petite graine rebelle décida de quitter le nid paternel. Elle s'adressa au vent qui, délicatement, la posa sur sa paume et l'emmena. Petite graine, confiante, regardait le monde du haut de la nuée. Elle atteignit la mer et demanda au vent de la déposer sur la vague marine.
« Petite, lui dit le vent, la mer n'est pas dure, et si tu t'y enfonces, les poissons te dévoreront. »«
Vais-je donc encore longtemps être ainsi ballottée ?» demanda Petite graine qui commençait à s'ennuyer.
« Patience, répondit le vent. « Je connais une terre chaude d'attente et d'amour. C'est là que je te mène. »
Quelques jours plus tard, Petite graine, fatiguée, aperçut au loin une côte découpée. La mer enserrait l'île d'un linceul bleuté et l'île s'élevait, aride et inhospitalière.
« Te voilà arrivé, dit le vent. Ici tu grandiras et connaîtras la vie. »
« Comment pourrais-je résister à tant de dureté ? » s'exclama Petite graine d'un air désespéré. « Est-ce là l'île d'amour que tu m'avais vantée ?»
Mais le vent ne l'écoutait plus. Ce n'était plus le compagnon de voyage délicat et attentif. C'était une rafale violente et décidée. Il rabattit Petite graine, qui tourbillonna, tomba, glissa et vint se perdre au creux d'un grand rocher. À peine remise de ses émotions, Petite graine voulut savoir où elle se trouvait. Elle regarda à droite et ne vit qu'une paroi rêche. À gauche, une paroi crevassée. Sous elle, un gouffre vertigineux. Alors elle leva les yeux et aperçut au loin, bien loin, un tout petit coin de ciel bleu. Si légère fut-elle, le rocher l'avait sentie tomber.
« Qu'est-ce là ? » hurla-t-il d'une voix caverneuse.
« Oh, monsieur le rocher, soyez gentil, je suis une petite graine perdue, abandonnée. Abritez-moi quelque temps, je ne vous demande rien, sinon de pouvoir un peu me réchauffer. »
« D'accord, » dit le rocher, attendri par la voix mélodieuse de Petite graine. « J'accepte de te garder jusqu'au printemps,
mais au premier beau jour, tu devras repartir. »
Et c'est ainsi que Petite Graine passa l'hiver. La bise soufflait, la neige tombait, mais elle se trouvait protégée par l'énorme rocher. Le rocher, lui, dormait d'un sommeil de rocher. Rien ne pouvait le réveiller. Le printemps arriva. Petite Graine, un jour, vit couler une goutte le long de la paroi. Une goutte, une autre, puis tout un filet d'eau. C'était la neige qui fondait. Alors, elle fut envahie par une étrange sensation. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir rester dans son corps. Son cœur gonflait, enflait. Elle tenta à nouveau de se pelotonner au creux du vieux rocher, mais elle ne le put pas. Désespérée, elle pensa qu'elle mourrait. Un matin, alors que le soleil frappait plus fort la paroi, elle sentit en elle un picotement bizarre. Elle se regarda et aperçut un mince filament qui lui sortait du cœur. Tout d'abord, elle eut peur. Mais bien vite, elle sentit combien cela lui était agréable. Et d'autres filaments apparurent à leur tour, qui chaque jour s'épaississaient. C'étaient ses premières racines. Le rocher, quant à lui, dormait toujours, emmitouflé dans son manteau neigeux. Alors la petite graine s'enhardit et éleva un filament vers le haut. Et plus elle s'étirait, plus elle désirait voir le jour qui perçait à travers la couche de neige à présent translucide. Enfin la neige fondit, le rocher s'éveilla.
« Il est temps, petite graine, de quitter ton abri, » lui dit-il d'une voix endormie. « C'est que je voudrais bien, mais ça m'est impossible. Me voici à présent accroché de partout. »
Alors, le rocher sentit au fond de lui une caresse telle qu'il n'en avait jamais connue. Son cœur de vieux rocher s'émut de tant de douceur.
« Reste si ça te plaît, mais tu dois me parler. Je suis vieux, je m'ennuie. Raconte-moi la vie. »
Et c'est ainsi que Petite Graine se mit à parler le langage des arbres. Elle conta au rocher une histoire longue, très longue. Et plus l'histoire durait, plus ses racines s'affermissaient. Elles enserrèrent peu à peu le rocher. La tige se fit tronc, le feuillage s'épanouit. Le vieux rocher, charmé, ne craignait plus ni le soleil au zénith, ni la grêle des orages. Un bel arbre, à présent, le protégeait des intempéries. Il se laissa, des années entières, enlacé par son arbre. Et un beau jour d'automne, il sentit une pomme qui roulait à son pied. La pomme éclata, libéra une graine qui bientôt s'envola. Crète, Gingilos Loutreau, avril 1996.
Jacqueline Delbès.
Et vous êtes audiolectrice, c'est ça, hein?
Voilà. Françoise Chandernagor, l'enfant des Lumières. Alors l'histoire débute, c'est une petite fille dans les Antilles, mais je ne sais plus exactement justement quelle île, et elle a été sauvée du massacre, c'est juste avant la Révolution française, je pense que c'est dans les années 1780 et quelque chose. Et c'est sa nounou antillaise qui l'a sauvée en la mettant sous ses jupons, elle l'a sauvée du massacre comme ça, quand les esclaves se sont rebellés. D'accord. Dans la plantation de... je ne sais plus quoi d'ailleurs, une plantation quoi, faite par les Français, oui. Faite par les Blancs. Et après, elle a été transportée en France. Elle s'est mariée avec un noble. Et ce monsieur qui était plus âgé qu'elle, il s'est retrouvé pendu, on ne sait pas trop comment. Quoi. Bref, il a eu une mort violente. Et elle avait un petit garçon de 7 ans qu'elle a élevé seule dans, oui, Paris et avec les moyens du bord de l'époque. Et ce petit garçon, il était très gentil au départ. Puis après, elle avait une propriété en province. Donc, ils se sont transportés dans la propriété en province. Et ce petit garçon, il est devenu à jouer, à travailler avec les paysans. Il était même à la limite un peu braconnier, etc. Quoi, c'était un vrai petit paysan. Et très, très malin. Et elle l'a retrouvé quelquefois sur les places du village en train de faire des tours de passe-passe avec les cartes ou avec des jeux plus ou moins recommandables. Voilà. Alors, il n'était pas devenu une racaille, mais peu s'en faut quand même, quoi. Et justement, elle l'aime toujours d'un amour immodéré. Et elle, elle fait travailler les paysans de son, sa propriété, de son château. Là, et le gamin, il est toujours plus ou moins livré à lui-même quand même. Voilà. Alors, il finit par faire un homme quand même, à peu près comme il faut. Il monte à Paris. Et là, bah, c'était le grand jeu, quoi, pour ce jeune. C'était la grande vie, etc. Et elle s'est retirée dans son château. Elle a vécu quelques mois à Paris, le temps de le lancer, qu'il fasse des connaissances dans le grand monde, entre guillemets. Et que elle est retournée à son village. Et puis, en fait, son fils, elle le voyait que de loin.
Oui.
Elle s'est éteinte. Elle ne l'avait pas revue. Et le courrier marchait très mal à ce moment-là, évidemment. Donc, elle n'a pas eu le temps de le revoir avant de mourir. Et lui, il revient dans le château, plein de remords et de culpabilité, quoi.
Voilà. D'accord. Donc, c'est un message sur les relations entre une mère et un fils.
Voilà, un oui. Amour maternel inconditionnel, quoi.
Vous le recommandez, alors, ce livre ?
Oui, peut-être plutôt à une certaine catégorie de lecteurs, plutôt lectrices, justement, de femmes, parce que pour un homme, ça peut paraître un peu, je dirais pas léger, mais un peu futile, peut-être, je sais pas.
Oui.
C'est plus compréhensible par des femmes, je pense.
D'accord, ben, il y a des auto-lectrices qui seront très heureuses de suivre votre recommandation.
Oui, parce que c'est pas un livre moderne, hein, je pense pas.
Je m'appelle Michel Grenier. Je suis à la bibliothèque sonore au moins depuis 6 ou 7 ans. Et on m'a demandé à l'atelier d'écriture à la Maison des Jeunes d'écrire un conte. Et puis j'ai pensé d'un seul coup au veilleur dans Ulysse, dans Homère, l'Odyssée. Et j'ai pensé au veilleur qui était quelqu'un qui, la nuit, passait toute sa nuit à guetter la mer pour voir si Ulysse revenait. À partir de ça, c'était la nuit, et j'ai inventé une histoire qui est venue toute seule après. Une fois que je l'ai installée sur les remparts, l'histoire est venue toute seule, elle s'est déroulée toute seule. Les idées venaient les unes après les autres, sans problème. Voilà.
Oui, et donc c'était quelqu'un qui guettait et qui était tout seul sur les remparts?
Voilà, oui, Pénélope, la femme d'Ulysse, lui avait demandé de guetter, de veiller, parce qu'on l'appelait le veilleur, de veiller toutes les nuits le retour d'Ulysse.
D'accord, oui. Et ça se termine bien, votre conte ?
Mon conte ? Je ne sais pas.
Ah bon.
Les lecteurs le verront bien.
D'accord.
Les auditeurs verront bien.
Oui. Merci, Michel. Avec la voix de Jean-Pierre, numéro 240 à la bibliothèque de Grenoble-Isère.
Conte à dormir debout. Il s'appelle Nyarkos. C'est un ancien combattant de l'armée d'Ulysse. Il fut blessé à l'épaule et au bras durant une bataille de la guerre de Troie. Ne pouvant plus lancer le javelot, il fut envoyé sur l'île d'Ithaque, car son bras invalide l'empêche maintenant d'exercer son métier. Alors Pénélope lui a demandé de guetter le retour de son époux parti depuis si longtemps. Il devint veilleur, passant toute la nuit sur les remparts, scrutant l'horizon au loin, sur la mer. Les heures sont longues, mais il peut s'appuyer sur une pierre en saillie qui lui sert de miséricorde. Si, au crépuscule, les murs des remparts sont encore chauds, longtemps avant l'aube, la fraîcheur est tombée et une ample cape le protège du froid et de l'humidité. Seule sa tête émerge du vaste vêtement. Le film de la nuit ne change guère. Dans la première obscurité du soir, il entend l'extinction progressive des voix et des bruits de la cité. Quelques oiseaux nocturnes troublent parfois le silence. Avant les premières clartés, Il guette l'arrivée de l'aurore aux doigts de rose, la fin prochaine de sa veille. Le déroulement identique des nuits ne le lasse jamais, et il sait qu'au long des heures nocturnes, il passera par toutes les phases, depuis l'inconscience jusqu'à l'éveil complet. Une nuit, alors qu'il somnole sans s'en rendre compte, il perçoit à côté de lui, sur sa droite, la présence d'un enfant aux cheveux sombres et bouclés. « Que viens-tu faire là? Tu devrais être couché depuis longtemps. Tes parents vont te chercher quand ils s'apercevront de ton absence. »« Je ne peux pas dormir, » dit l'enfant à voix basse, « et écouter les bruits de la nature la nuit m'intéresse plus qu'apprendre à lire et à écrire. »« Mais alors, que vas-tu faire plus tard ?» demande le veilleur. « Je veux faire comme mon père, travailler le cuir, fabriquer toutes sortes d'objets et même des vêtements. » Maintenant, il faut que tu t'en ailles, sinon tes parents seront inquiets si au lever ils ne te voient pas. L'enfant ne répond plus, il est parti. Mais il revient les nuits suivantes, et à son tour questionne le veilleur. Et toi, c'est quoi ton métier? J'étais guerrier dans l'armée d'Ulysse, mais maintenant une blessure au bras m'empêche de lancer les traits. Alors je suis revenu sur l'île, et pour Pénélope, je guette le retour de son mari. Et toi, que fais-tu tout au long de la journée? J'aide mes parents en allant chez les commerçants. J'y rencontre mes amis et nous organisons des jeux. Nous allons sur la plage ou sur les rochers. On aime regarder le trafic des voiliers et des galères à rames. On se demande d'où ils viennent et où ils vont. Quand c'est la bonne saison, on se rend à l'intérieur de l'île cueillir tous les fruits qu'on trouve. On adore les figues et les baies sauvages. Quand on s'ennuie, on regarde passer les filles qui font semblant de ne pas nous voir. Au bout de quelque temps, quand l'enfant disparaît après leur conversation, lorsqu'il s'évanouit dans la nuit, Narcos ressent comme une gêne. Ensuite, un trouble qu'il ne comprend pas. Qui est cet enfant? Pourquoi il lui rappelle quelqu'un? Mais c'est trop diffus. La nuit suivante, l'enfant revient et leur conversation reprend. Alors que Narcos sort son bras de la cape pour l'atteindre, sa main ne ressent que le froid de la nuit. Il est troublé, puis stupéfait. Il n'y a personne. Il n'y a pas de petit garçon. Il n'y a jamais eu de petit garçon. L'enfance finit-elle un jour? Michel Grenier, janvier 2022.
La Befana, conte de Noël italien. À l'instar de nombreux pays, la distribution des cadeaux de Noël en Italie se fait le 25 décembre. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Jadis, ces mêmes présents étaient offerts le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, par la Befana, une sorcière bienveillante. Mais n'en révélons pas plus et découvrons ensemble ce merveilleux conte de Noël italien. Il était une fois, il y a bien longtemps, une paysanne nommée Befana qui habitait un hameau. Veuve et sans enfant, la vieille femme était aigrie et solitaire. Elle vivait dans une humble demeure. Toutefois, elle l'entretenait avec un si grand zèle qu'on la voyait toujours un balai à la main, prête à traquer la moindre poussière. Befana passait ainsi le plus clair de son temps à balayer, balayer et encore balayer. Un soir d'hiver, alors qu'elle terminait son ménage quotidien, on frappa à la porte. L'ayant ouvert, elle se retrouva surprise face à trois inconnus. Le premier était un vieil homme blanc portant la barbe et les cheveux longs. Le second était jeune, imberbe et à la peau rouge. Et le troisième était noir et barbu. Tous étaient vêtus de riches manteaux et coiffés d'une couronne scintillante. Ils se présentèrent comme étant les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Après avoir expliqué à Befana qu'ils se rendaient guidés par une étoile à Bethléem pour honorer la naissance de l'enfant Jésus, ils lui demandèrent l'hospitalité pour la nuit. Mais celle-ci refusa sèchement, prétextant qu'elle ne pouvait accueillir des invités dans une demeure aussi sale. Befana ferma alors la porte au nez des pauvres rois mages et s'en alla conclure sa tâche ménagère. Mais, tandis qu'elle balayait, elle ne put s'empêcher de penser à ses curieux visiteurs. Au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, la vieille femme fut de plus en plus rongée par le remords. Avant de s'endormir, elle observa le ciel nocturne et aperçut soudain l'étoile décrite par les rois mages. Celle-ci brillait de mille feux. Befana prit alors une décision qui allait bouleverser son existence. Le lendemain matin, elle se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Elle remplit un énorme baluchon de tous les gâteaux, bonbons et fruits secs que contenait son foyer pour les offrir à l'enfant Jésus. Coiffée d'un fichu noué sous le menton, vêtue d'une robe blanche et portant son sac de friandises attaché à son inséparable balai, elle quitta son village dans le froid matinal pour retrouver les rois mages et marcher avec eux vers Bethléem. Les jours et les semaines passèrent, mais la pauvre Befana ne retrouva jamais les trois voyageurs, et comme l'étoile avait disparu, elle ne put également rendre visite à l'enfant Jésus. Pourtant, la vieille femme ne perdit jamais espoir. Et à mesure qu'elle avançait, son cœur se remplissant d'amour, elle distribuait ses friandises à chaque enfant qu'elle rencontrait sur son chemin. Depuis lors, volant sur son balai, elle rend visite aux enfants, chaque nuit, du 5 au 6 janvier. À ceux qui ont été sages, elle leur laisse un cadeau, et à ceux qui ne l'ont pas été, un morceau de charbon. Henri. Voici un livre lu récemment que j'ai beaucoup apprécié. Je vous le recommande chaudement. Une saison douce de Milena Agus, édition Liana Lévy, 2021. Un mot sur l'auteur. Milena Agus, italienne, vit à Cagliari, en Sardaigne, où elle est née. Son livre Mal de pierre, en 2007, lui confère une notoriété mondiale. Toujours proche des fables ou des contes, Milena met en scène des êtres différents qu'elle s'emploie à remettre sur la voie d'une espèce de bonheur. Le livre. Une saison douce est une histoire de migrants qui débarquent un jour en Sardaigne, dans le village délabré de Campidano. D'un côté, les Sardes se sentent surpris, indignés, puis pris au piège par ces humanitaires qui accompagnent ces envahisseurs. Mais que vont-ils faire avec ces inconnus? De l'autre côté, les migrants ont du mal à masquer leur déception d'arriver dans ce trou perdu si peu accueillant. La malédiction continue pour eux. Camp contre camp, la violence ne demande qu'à exploser. Mais l'écrivaine sarde met alors en place une autre voie. C'est d'un lieu, d'une terre, qu'émerge cette autre voie. Les migrants remettent en état la ruine, vieille maison où l'on voit les étoiles à travers le toit, puis le potager du village. Le rapprochement entre les deux communautés est en marche. Les femmes comptent beaucoup dans ces liens qui se tissent. Découverte de la cuisine de l'autre, des jeux, des croyances, naissance d'un bébé, et grand bal final très drôle tous ensemble. Vraiment une belle fable à découvrir.
Je m'appelle Christine Duprat. J'ai rejoint les donneurs de voix depuis un an. J'ai deux passions, courir en montagne et lire. La lecture emmène partout. Découvrir, s'évader, comprendre, rêver, voyager, fantasmer. La lecture, c'est fou. C'est pour partager les plaisirs de la lecture que j'ai rejoint les donneurs de voix. Lire et enregistrer pour que vous puissiez, vous aussi, vibrer, vous émouvoir, rire, pleurer, avoir peur, être impatient de connaître la suite. Alors, en 2023, osez découvrir de nouveaux livres, de nouveaux mondes, de nouvelles émotions. Et pour 2023, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et beaucoup, beaucoup d'écoute de livres. Christine.
Maurice, audiolecteur de la Bibliothèque sonore de Grenoble. Je vais vous parler d'un roman d'Henri Troya, Les semailles et les moissons. J'ai découvert Henri Troya, cet écrivain, ce romancier, par cette chronique familiale et romanesque française qui commence vers 1870 et nous emmène jusqu'à la libération de Paris en 1944. Au fil de ces 5 tomes, Les semailles et les moissons, Amélie, La Guérive, Tendre et violente Elisabeth, et enfin La Rencontre. Pourquoi me suis-je passionné à l'écoute de cette saga ? Je crois parce que cet écrivain possède le talent rare de nous faire entrer dans son univers comme si on entrait dans la maison d'un ami. On s'attache à ses personnages, on partage les espoirs et les doutes d'Amélie, on souffre avec Pierre Mazaleg et on regarde grandir Elisabeth. Troya y décrit très bien cette longue période, s'attardant sur les faits historiques sans s'y appesantir. Les personnages sont attachants et j'ai eu beaucoup de mal à les quitter après les avoir côtoyés pendant de longues semaines. Le premier roman de cette saga commence à La Chapelle aux Bois, une bourgade corrézienne à la veille de la Grande Guerre. C'est là qu'a grandi Amélie Oberna, entre un père forgeron, qu'elle adore, et une mère un peu fantasse qui tient la petite épicerie-mercerie du village. À 18 ans, la jolie et farouche Amélie sait que ses pensées et tous ses sentiments vont vers Pierre Mazaleg, qui rêve lui aussi de l'épouser. Ainsi débute cette chronique familiale, ce roman d'amour raisonnable et passionné. Dans Amélie, le deuxième volet de cette série, on retrouve Amélie, mariée avec Pierre Mazaleg, tenant un café à Paris. Ce n'était pourtant pas à l'origine sa vocation, car un café était à ses yeux un lieu de perdition. Mais après son mariage, elle quitte avec Pierre leur bourg natal de La Chapelle-aux-Bois pour la capitale. Et là, se laisse convaincre que le meilleur moyen de gagner leur vie est de devenir les patrons d'un café, le cycliste couronné. Puis la guerre éclate. Amélie se retrouve seule en cette année 1915. Avec beaucoup de courage, de pugnacité, elle va prendre en main les destinées de son bistrot parisien en l'absence de son mari. Elle ne vivra plus désormais que dans l'attente des nouvelles de Pierre, avivée bien sûr par l'angoisse qui est le lot de toutes ses épouses, de toutes ses mères qui ont un être cher en perpétuel danger dans cette guerre. Les personnages sont attachants, bien incarnés. On accroche avec facilité au rendu du Paris début de la Première Guerre. On admire la jeune Amélie, symbole de ces femmes qui, dans les travaux agricoles, dans les usines, vont remplacer tous ces hommes mobilisés. C'est sur le retour de Pierre, gravement blessé en 1916, que s'achève ce volume. La Grive, troisième volet de Semailles et des Moissons, nous plonge dans le monde d'Elisabeth, fille de Pierre et d'Amélie Mazaleg, personnage principal de ce roman. C'est une petite fille rêveuse et fragile, mais combien attachante avec ses joies, ses peines et ses blessures. Elisabeth a 10 ans et vit dans un monde enchanté que représente à ses yeux le cristal, ce café Montmartre III qu'exploitent à présent ses parents. Mais pour rétablir sa santé compromise, elle sera envoyée dans une institution religieuse à l'autre bout de la France, la pension Sainte-Colombe. Quel changement, quel contraste avec l'univers parisien. Dans Tendre et violente Elisabeth, nous quittons le monde des bistrots populaires de Paris, mais aussi celui de la province rurale. Ils sont issus, Amélie et Elisabeth. Le charme de ce quatrième tome réside dans le fait qu'il propose la chronique d'une certaine douceur de vivre et d'insouciance d'avant-guerre. On se laisse aller avec délice à cette chronique de la vie d'un petit hôtel à la montagne, le plus exactement. exactement à Megève, avec ses clients et leurs manies, les disputes et les petits fracas du personnel, les amitiés et les amours qui se lient et se délient. J'ai trouvé beaucoup de plaisir et de bonheur à l'écoute de ce quatrième tome. Enfin, la rencontre, cinquième et dernier tome de cette série, m'a particulièrement touché pour avoir été le témoin de cette époque. La saga familiale, l'histoire se mêle pour nous entraîner dans un récit palpitant où l'on retrouve tout ce qui a fait le sel de l'ensemble de cette série. La crédibilité des personnages, les sentiments vrais, le rythme constant qui ne faiblit pas. Nous sommes à Paris en 1938. Elisabeth tient un petit magasin de disques, rue Marbeuf, libre, solitaire, secrète. Elle est décidée à défendre sa tranquillité coûte que coûte. Elle est entraînée dans d'orageuses aventures auxquelles va bientôt se mêler le grondement de la guerre. À travers ces épreuves, Elisabeth s'efforce en vain de découvrir sa voie. C'est au moment où elle croit avoir tout perdu qu'une rencontre décisive se produit, celle d'un homme qui lui rendra confiance en elle-même et en l'avenir, Boris. Dans ce Paris sous l'occupation allemande, l'auteur a parfaitement mêlé le futile et le douloureux, l'amour et la haine, la peur et le courage. C'est vivant, c'est intense et ça s'écoute avec bonheur. Par son comportement, Elisabeth peut agacer, mais en même temps, elle est touchante, car dans ces périodes troublées de guerre et à cette époque, il n'est pas facile d'être une femme seule et libre. Encore une fois, ce fut un enchantement de découvrir les cinq volets du roman d'Henri Troyat. Ils sont terriblement addictifs, tant par l'intensité de leur histoire que par l'écriture de l'auteur, qui est incisive et tellement fluide. C'est avec la libération de Paris que s'achève cette belle saga d'Henri Troyat. Je ne voudrais pas terminer sans souligner avec force le talent du donneur de voix qui a su me faire vivre avec cette passion, cette saga, par ses changements d'intonation, par ses imitations, ses silences angoissants annonciateurs d'un événement requérant toute mon attention.
Voici deux extraits du livre « Alchimie des mots » écrit par Louisette Mur-Amalvi, écrivain, poétesse, audiolectrice. Un sera lu par Nicole et Jean-Pierre Fantinuti et l'autre par Nicole seule. Le petit lutin. Petit lutin aux doigts d'argent, au beau regard de firmament, pourquoi as-tu mis ton bonnet de travers ?
C'est pour mieux voir le monde à l'envers.
Tu ressembles à Jean de la Lune.
C'est pour mieux rêver sur la dune.
Tu as un air si tourmenté.
Toutes les maisons sont verrouillées.
Alors, petit lutin, que vas-tu faire ?
Ce que je vais faire, je suis le messager de l'an neuf. Je vais me glisser dans la cheminée, même si j'y perds mon bonnet, ou s'il penche de l'autre côté, ou si j'ai l'air d'un ramoneur. J'arriverai à la belle heure, à minuit, sans bruit, et je ferai voler en éclats la nuit.
Et ta colombe, petit lutin, l'as-tu oubliée en chemin ?
Elle m'a échappé des doigts. Elle vole par-dessus les toits, par-dessus les bois, de pays en pays. Elle défie les lois pour semer de la joie, du bonheur dans les cœurs, dans tous les cœurs, même les plus fripés, les plus altérés. Tous, cette nuit, elle nous convie au grand traité de concorde et de paix.
L'amour fait la loi. Il était une fois au bord du canal un sapin grand comme un épouvantail. Il disait « Je suis trop seul ici, il fait si froid. Je veux des plumes en guise de doigts, des plumes d'oie. » « Des plumes d'oie ? » dit la mère roi. Ainsi paraît, il devint roi, et il vola au fond des bois. « Vive le roi !» crièrent les chamois. Un petit lutin nommé Éloi lui demanda « Veux-tu de moi ?»« Ma foi, par saint Éloi, viens sous mon toit. » Et le petit Éloi et le grand roi passèrent la nuit dans ce grand bois. Ce soir-là, il y eut un grand élan de joie. Le bon vieux roi, Sapin, ma foi, donna ses plumes au petit Éloi qui tremblotait de froid. Le petit Éloi, ému par ce grand vieux bon roi, appela les chamois, les oies, les boa-boas, tout ce qui existe dans les grands bois, pour couronner ce vieux grand roi. Une étoile en haut de ses bois, et à chaque aiguille de bois, un fil doré de soie. On admirait ce grand vieux bon roi, et l'on chantait à pleine voix. Il a donné au petit Éloi ses plumes d'oie, parce qu'il tremblotait de froid. L'écho modula toutes ses voix en une mélodie intense. Elle voyagea. Elle traversa monts et vallées, plaines et frontières. Elle tournait autour de la terre. Plus légère que l'air, plus vive que le vent, nul ne pouvait la faire taire. Elle laissa derrière elle la grande forêt de Bohême. Le long du grand fleuve Danube, elle glissa. Et avant de franchir les Carpates, elle tournoya au-dessus de la ville de Vienne, au-dessus des flèches des cathédrales, des monastères, des casernes militaires, des tours, des châteaux, des palais et de tous ces quartiers blottis contre les hautes murailles. Le grand compositeur Ludwig van Beethoven, penché sur son clavier, absorbé dans l'écriture de sa symphonie, suspendu son élan créatif. Mais, se dit-il, ce souffle vient du fond des bois, c'est un bruissement de feuilles, un rire d'enfant, des frissonnements d'ailes, la harpe du vent, toute la forêt chante, les chamois, les oies, les boa-boas, et même l'hirondelle, la colombe, la tourterelle, un tutti magistral, le loup, le hibou, l'engoulevent ulule, toutes ces voix m'appellent. Si troublé, si impressionné fut le grand compositeur que dans sa tête il y eut comme une révélation. La flûte zinzinula, puis, comme une vague de fond, tous les instruments s'élevèrent. Le basson, le hautbois, la contrebasse, le violoncelle et les notes du piano ruisselèrent. Dans une illumination souveraine, le cœur du grand compositeur battait le tempo. Ce soir-là, en cet an 1824, sous les doigts de Ludwig van Beethoven, jaillit l'hymne à la joie. « Écoutez, écoutez !» murmurèrent les habitants des bois. « Cette fois, l'amour fait la loi. » Note. En juillet 1971, l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe adopta cette mélodie comme hymne européen, décision suivie par notre Conseil des ministres.
Bonjour, je suis Marilyn, donneuse de voix à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Je vais vous lire une poésie tirée du livre « Les plus beaux poèmes d'hier et d'aujourd'hui ». Voici Noël. Voici Noël, voici les flocons bleus, voici les mots que je voulais te dire, et voici le lait, l'orange et la cire qui se consument auprès d'un cœur en feu. Voici Noël. Ô clarté, ô mystère, tous les oiseaux vont se mettre à chanter, et je t'apporte une rose d'été où dorment tous les parfums de la terre. Voici Noël. Les vents bercent les blés. Je pense à ceux qui tremblent dans les larmes. Je pense à ceux qui saignent sous les armes. Je pense au cœur comme au grenier comblé. Voici Noël. L'étoile au reflet fin marque ma route, et je suis ce roi mage aux mains emplies et de fleurs et d'images qui te salue au bord d'un vieux chemin. Pierre Gamara.
Bonjour, je suis Odile. J'ai rejoint la BS en 2014 en tant que donneuse de voix. J'aime bien la montagne et le dernier livre que j'ai enregistré était écrit par un auteur local, Maxence Triève. Il s'agissait de L'influence des ombres, qui est un roman policier se déroulant en Chartreuse dans les années 50. Depuis quelques années, je m'occupe, avec Raymond, de l'accueil et de la formation des nouveaux donneurs de voix. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir deux petits textes de Roland Topor, tirés de Café Panique. Voici l'histoire de Pomme Vapeur. J'avais rendez-vous à 6 heures chez Panique avec Pomme Vapeur, mais il va me surprendre chez moi sur le coup de 5 heures, juste au moment où je m'apprêtais à partir. « Salut, me dit Pomme Vapeur, j'ai préféré passer tout de suite, de manière à pouvoir rentrer à la maison en avance pour faire ma valise, ce qui me permet de partir ce soir même en week-end, de façon à revenir dimanche soir au lieu de lundi, ce qui me donnera la possibilité de faire commencer tout de suite les travaux de la villa et de signer immédiatement pour la tournée que je ferai ce printemps et non l'été, ce qui me donnera la possibilité de préparer dès le mois de juin mon mois de septembre et me permettra de me marier à Noël au lieu du jour de l'an. Je pourrai donc partir avant la fin de l'année pour le voyage prévu l'année prochaine. Du coup, je pourrai renouveler mon bail qui arrivera à expiration aussitôt après mon retour des États-Unis. Nous aurons notre premier enfant à peu près vers ce moment-là, si bien que nous aurons le second avant le départ de Jean-Marie pour le service militaire, ce qui est quand même plus pratique, sans compter que mon frère, qui devait rentrer vers cette époque, sera sans doute en retard, ce qui risque de tout compliquer. Nous irons alors nous installer dans le petit pavillon de Mantes-la-Jolie, où je pourrai attendre tranquillement l'âge de la retraite. Ce n'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je me sauve. Avec ma manie de trop parler, je viens de prendre du retard. Bon, alors au revoir, hein, et souhaite-moi bonne chance, j'en ai besoin. Ce type, Pomme Vapeur, on m'avait prévenu qu'il filait un mauvais coton, mais je ne l'imaginais pas touché à ce point. Voici maintenant l'histoire de Sans Moi. Ce type, Sans Moi, avait une trouille bleue du dentiste. Un jour pourtant, il se décide à prendre rendez-vous, convaincu par une nuit blanche qu'il a laissée sur les genoux. « Je vois ce que c'est, dit le dentiste, une vieille carie dans la molaire. Pas la peine d'avoir peur, je vais tuer le nerf, ensuite vous ne sentirez rien. » Il enfonce une longue aiguille pour sonder la carie. Profonde en tout cas. Sans Moi, bouche bée, transpire à grosses gouttes. La main du dentiste pénètre dans la carie à la suite de l'aiguille, puis le bras, et finalement le dentiste lui-même disparaît à l'intérieur de la dent, comme s'il allait à la cave. Sans Moi entend l'écho de ses pas décroître, puis il se retrouve tout bête sur son fauteuil, plus solitaire que dans la salle d'attente. Au bout d'une petite heure, il se risque à appeler. « Ohé, y a quelqu'un ?» Une voix lointaine lui répond, comme s'il était ventriloque. « Voilà, j'arrive !» Et en effet, le dentiste sort de la molaire, très à l'aise, mais le regard sournois. C'était vraiment une très vieille et très vaste carie. Maintenant que la dent est insensibilisée, je vais vous l'arracher. Vous ne sentirez rien. On ne peut pas mettre une couronne ? Demande Sans Moi, qui adore parler technique. Mais l'autre répond que ce n'est pas possible et crac ! Il arrache la molaire d'un seul coup. Par la suite, Sans Moi a appris la vérité. En explorant la dent, son escroc de dentiste a découvert des peintures rupestres. Il a fait classer le site, et maintenant on peut le visiter dans son cabinet, à condition de ne pas fumer, et de payer son ticket. Comme quoi, la moralité se perd aussi vite que les dents.
Sylvie, donneuse de temps à la Bibliothèque sonore de Grenoble. Voici deux courts extraits de « Sur la trace de Nivès » de Éry De Luca. L'auteur s'entretient ici avec l'alpiniste italienne Nivès Meroy. Notre monde repose sur les épaules de l'autre, sur des enfants au travail, sur des plantations et des matières premières payées bon marché. Des épaules d'inconnus portent notre poids, obèses de disproportion de richesse. Je l'ai vu. Dans les ascensions qui durent bien des jours vers les camps de base des hautes altitudes, des hommes et aussi des femmes et des enfants portent notre poids dans des hottes tressées. Tables, chaises, vaisselles, tentes, cuisinières, combustibles, cordes, matériel d'escalade, nourriture pour plusieurs semaines. En somme, un village pour vivre là où il n'y a rien. Ils portent notre poids pour le prix moyen de 300 roupies népalaises par jour, moins de 4 euros. Les hottes pèsent 40 kilos. Mais certains en portent de plus lourdes. Les étapes sont longues. Elles fatiguent le voyageur avec son petit sac à dos et le minimum nécessaire. Des porteurs de tout notre confort marchent avec des tongs ou bien pieds nus sur des pentes qui manquent d'oxygène, la température baissant. La nuit, ils campent en plein air autour d'un feu. Ils font cuire du riz et des légumes cueillis dans les parages, tant que quelque chose sort de terre. Au Népal, la végétation monte jusqu'à 3500 mètres. Nous autres, nous dormons dans une tente avec un repas chaud cuisiné par eux. Ils portent notre poids et ne perdent pas un gramme. Ils ne manquent pas un mouchoir au bagage remis en fin d'étape. Ils ne sont pas plus faits pour l'altitude que nous. La nuit, je les entends tousser. Ce sont souvent des paysans des basses vallées de rizières. Nous avançons péniblement, en silence. Eux ne renoncent pas à se parler, à raconter, tout en marchant. Nous, habillés de couches de technologie légère, aérée, chaude, coupe-vent, etc. Eux, avec des vêtements usés, des pulls en laine archi-élimés. Ils portent notre poids et sourient 100 fois plus que le plus extraverti de nos joyeux compères. Ils nous préparent des pâtes avec l'eau de la neige. Ils nous ont même apporté des œufs ici, à 5000 mètres. Sans eux, nous ne serions ni agiles, ni athlétiques, ni riches. Ils disparaissent en fin de transport. Ils se dispersent dans les vallées, juste à temps, pour le travail du riz et de l'orge. Vers à soi, Éry. J'ai acheté un petit livre de proverbes népalais. L'un d'entre eux dit « La chance ne change pas les hommes, mais elle les démasque ». Il me fait penser à la chanson de Vladimir Vysotsky, un auteur-compositeur russe, qui dit ceci « Si tu ne sais pas si tu peux te fier à un ami, invite-le en montagne. » Nivès. C'est vrai, la montagne démasque. Le temps qu'on passe là-haut, plus d'un mois, dans des conditions rigoureuses, bloqué, même en cas de tempête, pendant des jours, fait sortir celui que tu es, l'endroit et l'envers. Au cours de ces longues ascensions, une grande partie du temps est perdue, sous la tente, au camp de base, ou plus inconfortablement dans des camps plus hauts à ne rien faire. Tu fais fondre de la neige pour du thé, de la soupe, tu bavardes, tu attends que dehors le temps se rétablisse pour sortir. Nous avons battu le record d'inertie en 2004 sur la face nord du K2. Alors que plusieurs arrivèrent au sommet par le sud, nous avons eu la neige sur le dos pendant 2 mois. Notre espoir de pouvoir nous lancer a été bafoué tous les jours. Mais pour moi, même ce temps immobile n'est pas à mettre au rebut. On se sauve avec une histoire, une voix familière, des pâtes à la sauce tomate. En 2004, nous sommes partis début avril pour le Lhotse et nous sommes rentrés chez nous fin août après la saison au K2. Je n'ai jamais regardé ma montre pour savoir l'heure, je ne me lasse jamais d'être là-haut. mais j'ai vu plusieurs alpinistes exaspérés. Ivan Valero, avec nous cette année au Daoulagiri, l'alpiniste de l'Équateur, qui a presque bouclé le tour des 8000, disait « La vertu principale est la paciencia. Attendre, jusqu'à oublier qu'on attend. On passe des nuits enfermés, sans bouger, pendant que le ciel baisse et vient prendre la montagne. Je suis sous la tente, en train de réparer quelque chose ou de lire, car là-haut, un alpiniste a le temps de vider une bibliothèque. Je ne me pose pas à l'écoulement de l'inertie. Certains d'entre nous la subissent. Moi, au contraire, j'aime laisser aller le temps, les heures paresseuses d'une caravane immobile. On attend que revienne le propre, que le ciel remonte le plus haut possible et nous donne sa permission. Ce temps qui irrite les hommes me fait plaisir, même quand il dure des jours d'affilée. En juillet et en août 2004, nous sommes restés bloqués sous la neige pendant des semaines au K2. Les hommes hurlaient d'impatience. Moi, je savourais le temps qui nous tenait serré dans son poing. Il émiettait nos journées dans une continuelle pénombre et tu devais regarder ta montre pour savoir à quel moment du jour on était. Quand le temps n'est que neige et ces heures flocons qui tombent, tu sors seulement pour dégager la tente et ne pas être enseveli. Il ne s'agit pas de patience pour moi, elle est masculine. La patience est ennuyeuse. Tu dois t'en souvenir, tu dois te l'imposer. Moi, je me sens accueillante avec le temps, quel qu'il soit en montagne, et je me sens accueillie dans son courant, même quand il a l'air immobile. Là-haut, même à la belle saison, si tout va bien, nous passons la moitié du temps sous la tente. Tel est le rythme. Des jours à monter et descendre avec nos chargements, puis des jours à faire les vers à soie dans le cocon des sacs de couchage. Vous pouvez emprunter sur la trace de Nives de Herri de Luca à la Bibliothèque Sonore de Grenoble sous le numéro de cote 7029.
Bonjour, je m'appelle Marie Le Chartier et je suis bénévole à la Bibliothèque Sonore de Grenoble depuis 2003. En tant que donneur de temps, j'enregistre les retours de vos audiolivres et en échange, selon vos souhaits, je vous en envoie d'autres. Quand vous n'avez pas de liste, j'essaie au mieux de trouver des auteurs que vous pouvez apprécier ou vous en faire découvrir que j'ai personnellement aimé. Et à ce sujet, je voudrais vous recommander deux livres. Le premier, La Tresse, de Laetitia Colombani, qui est un premier roman et qui a été enregistré sous le numéro 8313 d'une durée de 5h20. C'est l'histoire de trois femmes, trois vies sur trois continents. Il y a Smita, qui appartient à la caste des intouchables. Elle vit en marge de la société et a pour fonction de nettoyer les toilettes publiques. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable, décide de vendre sa tresse et permet à sa fille d'entrer à l'école. Son mari, un homme doux et conciliant, accepte ce choix audacieux à contre-courant des normes sociales rigide et inégalitaire de cette société de caste. Il y a également Julia, en Sicile, 20 ans, qui travaille dans la petite entreprise de son père et comme les autres ouvrières, elle traite des cheveux en parlant d'amour et de la vie. Elle est spécialisée dans le tri des mèches décolorées. Par ailleurs, elle adore lire et alors qu'elle rentre de la bibliothèque, elle apprend que son père est victime d'un grave accident et que l'entreprise est en faillite. À Montréal, il y a Sarah, qui est cadre supérieur et qui travaille dans un prestigieux cabinet d'avocats. Alors qu'elle va être promue à la tête de ce cabinet, elle apprend qu'elle a un cancer du sein. Elle organise alors une stratégie de défense car elle veut à tout prix sauver les apparences pour maintenir sa carrière. Ainsi, liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de singulier, elles refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Une très belle histoire de cheveux qui fait le lien entre ces trois continents. Le deuxième est un livre de Claudie Gallet, enregistré sous le numéro 7581, d'une durée de 5 heures 12 minutes, et qui s'appelle « Seule Venise ». Abandonnée par son compagnon, elle quitte tout, vide son compte bancaire et arrive à Venise. Noël approche et la cité s'enfonce dans les brumes. Elle s'installe dans une pension de famille tenue par Luigi. Elle y rencontre un prince russe cloué sur un fauteuil roulant et installé à la pension depuis de nombreuses années. Il y a également Valentino et Carla, un jeune couple d'amoureux. Et au détour des rues désertes de Venise, qu'elle arpente toute la journée, elle rencontre un libraire, Dino, amoureux des mots et de la peinture, avec Zora Music, qui est un peintre rescapé des camps de concentration. Les rencontres se succèdent, les digues intérieures s'affaissent et Venise se dévoile, secrète et troublante. Voilà deux livres que je vous invite à découvrir. Bonne lecture!
Je m'appelle Eliane Rouge, je bénéficie des audiolivres depuis 2013 et cela m'occupe et me passionne énormément. Et j'avais envie de vous faire participer à un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, de Laila Slimani. Il s'agit d'une trilogie dont j'ai lu les deux premiers tomes. Le premier tome, c'est Le pays des autres, j'ai dû le lire au printemps. Et là, tout récemment, je viens de recevoir « Regardez-nous danser », le deuxième tome. Il avait été écrit en février 2022 par l'autrice. Voilà, et puis le troisième tome, ben, je ne sais pas s'il est rédigé, mais en tout cas, il doit être en cours. Voilà ce dont je voulais vous parler. Alors ce livre, cette trilogie, ces deux romans m'ont beaucoup intéressée. Parce qu'ils mettent en évidence les relations des personnes de deux cultures différentes, à savoir la France et le Maroc. Alors c'est un hommage que Laila a rendu à sa grand-mère. Sa grand-mère est d'origine française. Elle a épousé un officier marocain à la suite de la guerre de 1940. Où de nombreux soldats marocains sont venus aux côtés de la France pour défendre notre liberté. Donc le roman est basé sur des faits réels. Alors les principaux personnages de ce roman sont Mathilde et Amine. Donc Mathilde et Amine se rencontrent à la fin de la Première Guerre. Ils se marient à Strasbourg. Il y a un mariage religieux qu'Amine prendra bien soin de dissimulée au niveau de sa famille au Maroc. Ensuite, Amine part au Maroc. Il reprend la ferme de son père, Kadour. Puis Mathilde le rejoint. Donc Mathilde, c'est une jeune femme française, blonde, la peau très blanche. Et Amine, ben oui, a la peau brune, il est très mat, il a les cheveux bruns. Donc ce couple s'installe dans la ferme des parents. Il y a encore la grand-mère. Et Amine met tout en œuvre pour faire évoluer cette ferme, pour progresser. Donc le couple ben, vit des choses très difficiles que le roman explique. Et ils ont deux enfants. Ils ont donc la petite Aïcha et le petit garçon Selim. Alors Aïcha est très très brune comme son papa, les cheveux comme une tête d'hérisson. Et Selim est tout blond comme sa maman. Aïcha travaille très très bien à l'école, elle va dans un collège, dans une école coloniale, elle apprend le français, elle maîtrise tout, les maths, l'histoire, tout lui est facile. On voit l'évolution de cette petite Aïcha avec les autres enfants de l'école, Et ce n'est pas facile tout ça, parce que elle est en quelque sorte marocaine, parlant français, dans une école de colons. Donc elle est un peu mise à l'écart. En fait, elle trouve pas sa place ni d'un côté ni de l'autre. Mais heureusement pour elle, eh ben, elle est brillante, donc c'est quand même un facteur facilitant. Et puis Selim, le petit garçon, lui, il est plus attaché à sa maman. Il est vraiment accroché à ses basques et un peu, bon voilà, il vit comme cela. Et lui, par contre, on verra son parcours dans le deuxième roman. C'est plus difficile. Il a pas une bonne expérience scolaire. Il a un parcours beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est le premier roman. On voit l'installation de Matine et Amine dans cette ferme qui prospère. Donc Amine fait des cultures d'orangers, il prend des agrumes, des oliviers, et on voit aussi le nationalisme progresser au Maroc, parce que ça se passe, le roman se passe de la première partie de 1944 à 1956, donc il y a beaucoup de nationalistes qui font brûler les fermes. Il y a vraiment des choses, des faits historiques, parce que Laïla, c'est vraiment basé sur les faits de l'histoire. Elle a fait un grand travail de recherche. Elle a pris aussi de la documentation auprès des proches qui sont encore au Maroc pour elle. Et donc, c'est vraiment difficile. Amine a toujours peur que son territoire brûle, parce que, bah oui, il est marié à une Française. Il n'est pas colon, mais il n'est pas non plus vraiment marocain, donc c'est vraiment compliqué pour eux. Mais bon, on verra après, bon, on voit l'évolution de ce couple qui commence à engranger des bénéfices d'une vie de labeur, vraiment d'une intensité, d'une dureté qu'on n'ose pas imaginer. Malgré tout cela, Mathilde, elle apprend l'arabe, elle l'écrit, elle le parle, elle ouvre un petit dispensaire parce qu'elle a quelques connaissances, elle a lu des livres, alors... Bon, c'est vraiment tout simple, hein. C'est des soins d'hygiène, elle se met en relation avec la population, et tout ça, ben, elle fait sa place quand même dans ce petit coin reculé du Maroc. Elle trouve sa place avec une belle-mère, ben, évidemment, qui c'est aussi très différent. Elle apprend beaucoup de choses, et puis les enfants vont à l'école, et après on va retrouver cela dans le deuxième tome, c'est Regardez-nous danser.
Si vous voulez écouter le deuxième tome de ce livre de Leïla Slimani, demandez à la bibliothèque qu'on mette sur votre liste « Regardez-nous danser ». Et ne manquez pas le troisième tome qui devrait sortir en cours d'année 2023.
Audiolectrice de la Bibliothèque Sonore depuis de nombreuses années. Je vais vous parler d'un livre. J'ai eu un coup de cœur pour les deux livres d'Ogaya Ito, tome 1 et tome 2, La papeterie de Tsubaki et La République du Bonheur. C'est l'histoire d'Atoko qui fait ses premiers pas d'écrivain public dans la papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Celle-ci lui a enseigné l'art très difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, la calligraphie, le papier, l'encre, le timbre et les enveloppes, tout est important dans une lettre. Elle répond aux souhaits les plus surprenants, des lettres d'amour, des lettres d'adieu. Elle résout ainsi des conflits et apaise des chagrins. La papeterie de Tsubaki devient alors un lieu d'échange et de réconciliation. Le tome 2, c'est la vie de femme d'Atoko. Elle continue à exceller dans sa passion qui est d'écrire pour les autres. Mais un jour, elle écrira ce qui lui vient du fond du cœur. J'ai beaucoup aimé ces deux livres qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait rencontrer, bien que je le sache, d'autres coutumes, une autre civilisation. J'ai essayé d'imaginer le pays. Il y avait aussi les recettes, les odeurs que ça pouvait dégager. Et les personnages étaient très attachants.
À notre président Elian et à tous les bénévoles, Gisèle et Tristan Vincent présentent leurs meilleurs vœux
pour 2023. Au donneur de foi, au donneur de temps, et à tous nos amis pour une bonne écoute, pour nos audiolecteurs qui sont si précieux pour nous. Ne pouvant plus lire, j'ai eu le plaisir et la chance de connaître la bibliothèque sonore et de rencontrer Yves Blanchard, passionné de lecture et de pièces de théâtre. Il a tout de suite retrouvé son ancien groupe de jeunesse avant-scène et avec leur répertoire, pendant plusieurs décennies, ils nous ont enregistré plus de 65 pièces de théâtre, toutes intéressantes. Il faut au moins en écouter de temps en temps, en faire venir dans vos expéditions, au choix ou pas de choix, où vous prenez le répertoire, où vous aurez toutes les explications sur ces 67 pièces de théâtre. Mais sinon, au hasard, vous ne serez jamais déçus. Exemple, L'Aigle à deux têtes de Cocteau qui est admirablement interprété. Et puis évidemment, Cyrano de Bergerac, vous ne regretterez pas de vous mettre dans un fauteuil et pendant plus d'une heure, une heure et demie, faire voyage avec Yves Blanchard dans Cyrano de Bergerac. Il nous a interprété tous les Harry Potter. Chaque année, il attendait l'arrivée du livre au printemps ou à l'automne. Il guettait ça avec impatience pour continuer la saga. C'est toujours passionnant. Et puis Tintin, il a pu expliquer d'une façon merveilleuse. Yves nous a laissé une bonne collection de livres intéressants, entre autres Christian Bobin. Si vous voulez vous distraire, il y a tous les livres de Marie-Bernadette Dupuis, passionnants. Vous me lâchez, dès le début, vous ne lâchez plus le livre pendant plusieurs tomes, ça c'est important, et c'est très intéressant. Demandez, par exemple, Moulin du Loup, vous en avez pour un bon moment, ça se passe sur plusieurs années, c'est des vies de famille. J'ai bien aimé aussi le livre de Élie Prudvallée. C'est un jeune qui est venu justement à Fontaine nous présenter leur livre parce qu'il est parti à vélo avec sa compagne. Ils ont traversé tout le monde entier à faire des rencontres plus ou moins inquiétantes. On les a vus. Maintenant, ils continuent leur vie. Ils ont fait vraiment des kilomètres à vélo. On ne sait même pas comment ils ont pu revenir sur Grenoble parce que ce sont des Grenoblois. Alors, demandez le livre de Élie Prudvallée en roue libre. Et puis, je voulais te demander ton livre que j'ai bien aimé. Le titre, il y a du bleu dedans.
Il s'agit de Bleu de Delft, de Simone van der Vlucht. Elle a raison, Gisèle. C'est un très bon livre. Je vous le recommande.
Demandez ce livre qui m'a vraiment plu, puisque je voudrais même le réécouter assez récemment. N'oubliez pas de demander Djebel Amour de Frison Roche. C'est un livre passionnant d'une Française qui a vécu en Algérie. Un livre qui m'a paru aussi profond en sentiment, le livre qu'a lu notre ami Claude, qui s'appelle « Mon père des montagnes » de Madeleine Roth, R-O-T-H. C'est la vie d'un jeune qui redécouvre son père. C'est très intéressant, très familial, mais en même temps, c'est un très beau livre. Et ce monsieur Claude, en question, que vous reconnaîtrez dans sa voix, il a pris un peu la relève vive pour s'occuper de nouveaux livres pour les donneurs de voix et puis donner aussi des conseils. Dès le début 90, dès que nous sommes arrivés à Fontaine, nous avons eu le plaisir d'installer l'informatique grâce à Michel et André Sylvain qui ont passé des jours et presque des nuits pour rentrer tous nos inscrits et nos adhérents dans deux ordinateurs. C'était très compliqué au début. Il fallait même un petit peu former les nouveaux donneurs de temps. Puis, chaque jour, au quotidien, il y avait René en tant que secrétaire auprès de Firmin qui s'occupait des cassettes, de les réparer. Il y avait Claude Sagne et puis Gisèle qui vérifiaient toutes les cassettes avec leurs problèmes. Il y avait les donneurs de temps qui réexpédiaient. Il a fallu, au début de l'an 2000, toutes ces cassettes les passer en CD. Ça a été aussi un gros travail. Yves s'est occupé également, à part les livres et les pièces de théâtre, il s'est occupé du matériel pour les nouveaux donneurs de voix, aidé à la technique par Tristan pendant plusieurs années aussi. à tous les jours, il était à la poste pour expédier des paquets à chaque bibliothèque, et c'était une belle passion aussi de rendre service à tous ces nouveaux donneurs de voix qui cherchaient la perfection dans leur matériel. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la bibliothèque continue actuellement sur sa lancée. Bravo et merci à tous ceux qui prennent la suite de cette belle aventure. 30 ans en bibliothèque, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Depuis longtemps, j'aurais aimé aussi faire un petit peu un journal, mais pris par tout ce qu'on faisait, toutes les écoutes, parce que moi, j'ai sélectionné les nouveaux donneurs de voix, et c'était très passionnant parce qu'ils sont tous passés par la maison de Saint-Igné, et nous avions de bons moments ensemble pour rectifier certaines choses techniques avec Tristan, et puis sur les voix de chacun. Mes oreilles, elles ont été très occupées pendant ces 2-3 décennies, on peut dire. On était passionnés avec Tristan, et maintenant on laisse la place à d'autres, et vive la bibliothèque sonore. Mais plus tard, on essaiera, ou j'essaierai peut-être, d'en dire plus, parce que c'est vraiment une entreprise qui m'a étonnée. Chaque personne qui venait, qui rentrait à Fontaine, avait toujours du travail, et vraiment, on peut tous les remercier, et grâce à eux, depuis plus de 30 ans, la bibliothèque a pris son essor, et il faut que ça continue. Nous avons eu la chance de fêter les 35 ans de la bibliothèque avec toutes les fables de La Fontaine et 35 donneurs de voix qui ont prêté leur voix en même temps, des voix différentes, justement, très variées à écouter. Et c'est intéressant d'avoir ça chez vous et de prendre de temps en temps un petit passage, c'est pas à lire et à écouter pendant très longtemps, on trouve toujours une fable intéressante, on passe à la suivante, on change de donneur de voix, on change de voix, c'est très varié. Ce sont donc les fables de La Fontaine, lues par les 35 donneurs de voix pour fêter les 35 ans de notre bibliothèque. Encore un grand remerciement à tous nos amis qui prennent la relève depuis un certain temps, à Monique, qui est tout le temps au bout de ses écouteurs de téléphone et prête à répondre à tout le monde, Monique, Bernadette, qui est tout le temps le jeudi en permanence, Jean-Claude, qui s'occupe des Victor, quand ça va pas, il est toujours sollicité, Nicole, qui s'occupe des audiolecteurs et qui les intéresse à beaucoup d'interviews qu'elle fait. Elle vous en parlera peut-être plus tard. Vous avez eu l'occasion peut-être de l'écouter dans de très beaux livres, comme Le Bleu de Delphes, vous verrez. Merci à tous. Merci à Patrick, qui est souvent présent aussi le mardi. Merci pour toute cette suite qui arrive derrière nous. Et on est tranquille, la bibliothèque va survivre grâce à toute cette nouvelle équipe. Merci à Odile et à Raymond qui s'occupent des nouveaux arrivés de donneurs de voix. Merci aussi à notre trésorière, Martine. Elle nous manque beaucoup en ce moment, mais on espère que dès le début de l'année prochaine, on va la retrouver à Fontaine. Nous l'aimons beaucoup et nous manque beaucoup. Et merci aussi à notre vice-présidente,
Roselyne,
qui œuvre beaucoup aussi dans notre bibliothèque sonore.
Et un tout grand merci à toi, Gisèle, et à Tristan, qui nous ont tenu la main dans cette longue route d'enregistrement des livres. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'année prochaine. On vous embrasse.